Je viens de passer ma maîtrise et j'adore campus.
Ce que fait le gouvernement, comme les précédents gouvernements, consiste à dire en substance, on est prêt à tout. Toutes les baisses de dépenses possibles et des remboursements de médicaments, les gels de prestations, mais sauf taxer les milliardaires. Ça, c'est hors de question. Je pense qu'il faudrait faire l'inverse.
Parler.
Et si c'était,
et
à,
si
vous
c'était
parler.
À vous de parler.
Et si c'était à vous de parler.
De 18h à 23h.
Ça ne tient plus.
Ça ne tient,
ça
plus.
Ne tient plus.
À vous la parole.
À vous la parole. Merci de faire vivre les radios de proximité et vos associations.
Nous sommes toujours sur Radio Campus Amiens pour l'émission Ça ne tient plus. Et nous accueillons maintenant Fabrice Raffin, enseignant-chercheur en sociologie à l'Université Picardie-Jules Verne, qui sera interrogé par Alice et Slim. Si nous avons choisi d'inviter Fabrice Raffin, c'est d'abord parce qu'il a beaucoup travaillé sur de nombreuses questions qui ont traversé les discussions de ce soir, et en particulier celle des conséquences sur l'entrée du privé dans le financement des associations. Slim, c'est à toi.
Merci Emmanuel, et merci à vous, cher Fabrice, de venir... Nous rejoindre au cours de cette soirée commune avec nos amis de la Maison d'Amiens Métropole et du Mouvement Associatif des Hauts-de-France. Vous l'avez entendu en introduction de cette soirée, elle est placée sous l'autorité intellectuelle, si vous me permettez, cher Fabrice, d'exprimer les choses dans ces termes. Elle est placée sous l'autorité intellectuelle de Gabriel Zucman, en tant qu'économiste qui analyse depuis maintenant un certain nombre d'années les politiques fiscales, et puis sous votre autorité, sous votre regard, sous votre vos travaux de recherche, ils sont consacrés depuis un certain nombre d'années à l'observation des politiques culturelles, des acteurs dans ce champ particulier que sont les pratiques culturelles et artistiques. Et on aimerait avoir votre regard justement sur l'évolution de ce champ, des jeux d'acteurs, des acteurs eux-mêmes et des implications multiples que ça peut avoir sur ceux qui pratiquent la culture, ceux qui fabriquent la culture et ceux qui en sont en quelque sorte les consommateurs. Voilà. Pour cette interview, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'Alice que vous avez déjà entendue au cours de la soirée à travers une chronique vraiment incisive concernant ce que c'est que le FSER et ses multiples implications dans le risque d'une baisse. Ma première question, Fabrice, elle est la suivante. Dans ce champ, ce vaste champ qu'est la culture, est-ce que vous pourriez nous aider à y voir plus clair sur les groupes d'acteurs, sur les collectifs d'acteurs, sur les différents catégories d'acteurs qui sont en compétition, qui sont en action dans ce champ.
Oui, alors bonsoir. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Donc les différentes catégories d'acteurs, ça renvoie à deux articles que j'ai fait récemment. Le premier est plus consacré à ce que j'appelle la culture institutionnelle. Et puis quelqu'un m'a rappelé que j'avais oublié le secteur privé. Donc j'ai réécrit un article en articulant tout ça. Donc sur le côté des acteurs traditionnels, institutionnels, j'avais pointé quatre grandes familles. Alors d'abord les grandes familles, les grands opérateurs institutionnels de l'État, les musées nationaux, les grands théâtres, les théâtres nationaux. Voilà, donc une grande famille comme ça qui sont les grandes institutions et qui concentrent quand même 75% des crédits du ministère de la Culture, d'intervention du ministère de la Culture. Donc on pourrait y revenir, mais c'est dans le contexte actuel, c'est peut-être pas, même s'ils sont touchés par le dernier budget, les plus menacés. Ensuite, on avait un autre secteur qui était celui composé des compagnies indépendantes et des collectifs d'artistes, alors qui, eux, sont dans une situation plus compliquée. 80% d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas de site de lieu de diffusion ni de lieu propre. Donc, ils sont souvent en train de négocier avec les grandes institutions que je viens d'évoquer. Et finalement, le syndicat des cirques et compagnies de création dénonçait un peu une position de... Une position de service, quoi, de hiérarchique vis-à-vis des grandes institutions. Le troisième secteur, c'était le secteur associatif et citoyen, le tiers secteur composé donc des associations, des tiers-lieux, beaucoup dans une logique qui met en avant les droits culturels, hein, avec de forts ancrages locaux, et qui reste un secteur là, aussi très menacé, puisque ce sont des acteurs qui sont très souvent dans des logiques de recherche de subventions et d'appel à projets. Hein. Donc là, les coupures de subventions les concernent directement. Et puis, il y a une quatrième catégorie catégorie d'acteurs dans le secteur institutionnel qu'on oublie très souvent, ce sont les agents territoriaux. Donc un quatrième groupe d'acteurs, les agents territoriaux, qui sont des médiateurs souvent, des chargés de mission, médiateurs culturels, responsables d'affaires culturelles, qui sont vraiment la cheville ouvrière du secteur des collectivités territoriales et de la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà, et donc un secteur qui lui aussi souffre beaucoup parce que les coupures de crédit les touchent aussi, paradoxalement. Et puis, il y a quand même une ambiance un petit peu, je parlais avec certains d'entre eux récemment, une ambiance un petit peu de découragement, un sentiment de découragement, de désespoir parfois même. Voilà, alors entre les deux, une catégorie que je n'ai pas évoquée, ce sont les élus. Hein, les élus qui, eux, sont dans la décision, dans l'attribution des subventions, dans l'engagement politique. Et puis, de l'autre côté, donc à l'interface, le secteur privé avec... alors là, j'ai identifié trois catégories, ceux qui on pense très souvent, hein, qui sont ceux qui récemment... donc des grandes compagnies capitalistiques, des majors, Vivendi et autres, qui en ce moment rachètent des festivals ou créent leur propre festival, et on pourra reparler sur les logiques un petit peu industrielles qui sont derrière. Mais une autre catégorie parmi dans ce secteur privé et qui vient glaner la subvention, je dirais, ou faire concurrence aux acteurs que j'ai évoqués précédemment, qui sont donc là des SAS, des petites sociétés comme K36, qui eux ont des catalogues d'artistes et qui font qui ne sont pas dans la musique pour le coup, ils sont plus dans l'art urbain ou dans l'art dans l'espace public, et donc ils arrivent avec souvent des catalogues d'artistes clés en main, des artistes qui parfois d'ailleurs ne savent même pas qu'ils sont dans leur catalogue, avec donc une logique aussi sur laquelle on pourra revenir, et puis des enjeux même d'utilisation de la subvention qui posent question. Et enfin, une dernière catégorie d'acteurs qui sont des fondations. Alors, des fondations d'autres types d'entreprises, mais qui, elles, interviennent plus dans le domaine du patrimoine. Hein. Patrimoine, musée, et qui sont souvent en délégation de services publics pour remplir des missions. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, très souvent, les expositions immersives, ce genre de procédés numériques, sont conduites par ce genre de structure assez conséquente. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais je pense qu'on a à peu près tous les acteurs sur la table. Oui.
Bonsoir Fabrice Raffin. Vous remercie déjà pour votre réponse qui était très détaillée et très enrichissante par rapport à ce sujet. Et justement, afin de préparer cette émission, j'ai relu votre tribune que vous avez fait paraître dans Le Monde il y a un an à peu près, l'an dernier. Et vous montriez justement à ce moment-là que les politiques culturelles correspondent rarement aux attentes des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus par rapport à ça? Et est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Oui, bah oui, les chiffres ne bougent pas, ça c'est un peu terrible pour les acteurs, les professionnels institutionnels, hein, qui sont ceux qui mettent en œuvre les politiques et qui vivent de la subvention. C'est que donc les statistiques ne bougent pas. Je veux dire, il y a, en gros, pour le théâtre, c'est 9% depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, de pertes de Français qui vont au théâtre une fois par an. Pour la musique classique, c'est encore moins, c'est autour de 4-5%. Voilà, les bibliothèques, c'est autour de 17%. Donc les chiffres ne bougent pas. Donc on a quand même une proposition artistique, une offre culturelle qui est spécifique, on pourrait essayer de la qualifier, hein, mais qui est intéressante et qui part d'un bon sentiment. Hein. Très souvent, il s'agit d'éduquer, d'émanciper, de faire réfléchir. Voilà. Donc c'est des formes artistiques assez particulières, mais la majorité de la population n'est pas dans ces logiques artistiques ou culturelles. Il y a quand même, dans l'offre institutionnelle, un refus de la distraction, du loisir, qui reste des gros mots, hein, ou pire, de l'animation. Et donc une culture qui est proposée, qui est assez élitiste, sérieuse, intellectualiste, on pourrait préciser tous ces mots, mais voilà, donc moi quand je rentre du travail, je suis un Français lambda, j'ai peut-être pas envie d'aller réfléchir sur les questions sociales, sur les questions politiques, sur les questions philosophiques, et donc là il y a une sorte de hiatus entre les attentes des publics et l'offre institutionnelle, et très souvent ce n'est même pas... alors très souvent les personnes que j'interroge, je dis c'est pour les bourgeois, hein, c'est un terme qui est... ou c'est pour les riches, il y a vraiment une perception comme ça, qui est refusée d'ailleurs pour le milieu institutionnel, hein, qui répond mais non, c'est pour tout le monde, mais là ça fonctionne pas, il suffit pas de l'évoquer ou de l'invoquer pour que ça soit une réalité, et donc là on a des attentes et des logiques culturelles et artistiques qui sont très différentes dans les différents milieux de la population, et voilà, donc c'est un premier début de réponse peut-être.
Et justement, par rapport à ça et par rapport à votre tribune dans Le Monde, vous avez souligné ce point-là que vous avez à peine évoqué sur le fait qu'on considère que la politique en fait, de démocratisation culturelle française, elle reste avant tout bourgeoise, et ça peut paraître extrêmement ambivalent de par le fait que justement on a extrêmement beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour justement les territoires, on va dire, ruraux, qui sont éloignés, etc. Et pour autant, ça reste bourgeois, c'est ça ?
Oui. Alors, bourgeois, c'est pas, dans ma bouche, c'est pas péjoratif. Hein. C'est bourgeois au sens historique du terme, c'est-à-dire que la conception qu'on a aujourd'hui de la culture, elle naît au tournant de la Révolution française. Et c'est, comme je le disais, c'est une définition de la culture qui n'est pas de l'ordre du loisir, qui est de l'ordre, pour les publics, pour ces publics-là, une bonne pièce de théâtre, par exemple, c'est une pièce de théâtre qui va faire voir le monde autrement, qui va nous faire apprendre quelque chose sur le monde, donc c'est pas gratuit, quoi. Donc c'est très très bien, c'est un enjeu totalement louable. Donc mieux connaître, que ce soit le monde, la psychologie, l'histoire, donc il y a un enjeu que j'appelle heuristique, ça veut dire donner sens au monde, et qui est construit par la bourgeoisie, en fait, au tournant de la Révolution française. Et pourquoi la bourgeoisie ? Parce que la bourgeoisie, c'est elle qui mène la Révolution contre l'aristocratie, dont elle juge la culture superficielle. Donc cette culture bourgeoise, elle se construit contre la bourgeoisie, contre l'aristocratie superficielle, et contre le peuple jugé vulgaire. Voilà. Donc on a trois classes sociales là, qui s'affrontent, et la bourgeoisie va se construire sur cette, identitairement, hein, se construire sur cette conception de la culture, et donc un peu sérieuse, un peu élitiste, un peu voilà, et qui est venue, qui est de la conception dominante aujourd'hui dans les politiques publiques, hein, qui reste. Malraux le premier disait si la culture existe, ce n'est surtout pas pour que les gens s'amusent, et c'est une citation, quoi.
Je prends le relais, cher Fabrice.
Oui.
Il y a un autre aspect qui nous a beaucoup interpellé lorsqu'on a préparé cette soirée et qu'on a cherché personnes qui ont étudié ce champ depuis une vingtaine d'années. Il y a un élément que vous pointez, c'est l'évolution de ce champ à travers notamment l'émergence de nouveaux acteurs et la raréfaction, hein, si je puis me permettre le terme, des ressources publiques qui sont allouées aux acteurs. Donc vous mettez en évidence voilà, l'existence de tensions nouvelles qui sont le fruit à la fois pour les collectivités locales et l'État d'une réduction des budgets et en même temps, sur la scène culturelle, l'arrivée de nouveaux acteurs avec, mus par des logiques différentes des acteurs traditionnels, les compagnies de théâtre, les associations publiques, voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quels sont justement, à travers ces rapports de force, les foyers de tension qui émergent, quoi ?
Alors, déjà, je suis quand même un petit peu... Je prends des pincettes concernant le budget. Le budget de la culture en France, je ne suis pas sûr qu'il baisse, en fait. Alors là, cette année, c'est assez clair. Il y a pas de... Déjà bien malin, celui ou bien très fort serait la personne qui arriverait à nous dire le budget de la culture en France. Je pense que c'est impossible à calculer, en fait. Tellement il y a de financeurs potentiels, donc entre les collectivités territoriales et l'État, mais à l'intérieur même des régions, par exemple, des services qui font de la culture et qui sont pas... qui sont pas censés en faire. Et même dans l'État, ce n'est pas le ministère de la Culture, donc il faut le dire quand même, ce n'est pas le ministère de la Culture qui finance le plus la culture au niveau étatique, c'est l'ensemble des autres ministères qui ont, bah, eux seuls, hors ministère de la Culture, plus de 10 milliards de financement de la culture par an, quoi. Donc il y a sur le budget quelque chose qu'il faudrait préciser peut-être sur déjà le niveau de dépenses, qui est pour moi entre 25 et 30 milliards par an, et bien au-dessus, vous voyez, des 3,7 milliards de cette année du ministère de la Culture, auquel on peut ajouter 9 milliards des collectivités territoriales, donc on est bien au-dessus. Et puis voilà, donc ça c'est sur le côté un petit peu financier et de la culture. Sur les acteurs, oui, alors on peut pointer les acteurs, mais on peut pointer des dynamiques aussi. Alors le premier niveau de dynamique qui a un peu changé les choses, c'est quand au début des années 2000, les collectivités territoriales et les communes en premier lieu se sont réveillées pour mettre en œuvre leur propre politique, c'est-à-dire pas seulement mettre en œuvre ce qu'elles faisaient depuis longtemps, mais affirmer à partir des années 2000 des envies d'animation. Hein. Et puis c'est ce qu'on a appelé l'événementialisation ou la festivalisation des politiques culturelles, qui a été très mal vue par les acteurs institutionnels classiques des grandes institutions financées par l'État. Donc l'État est resté dans une logique assez artistique, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Quand déjà, donc on a un premier foyer de tension entre des logiques artistiques qui sont différentes au niveau étatique et collectivité territoriale. Voilà. Donc ensuite, il y a les acteurs que j'évoquais tout à l'heure. La multiplication des acteurs, bon, du côté associatif, elle est assez stable. Du côté du tiers secteur, quand même, en effet, le développement des tiers lieux et le développement des droits culturels a produit des dynamiques qui ont changé un petit peu la donne, avec de nouveaux acteurs qui sont apparus dans le champ. Alors, d'anciennes compagnies qui sont revendiquées, ou artistes qui sont revendiqués des droits culturels, mais aussi des acteurs associatifs qui ont profité, toute la mouvance qui venait des friches culturelles et des lieux intermédiaires s'est mue un petit peu à travers cette notion de tiers-lieu et de droits culturels. J'ai pu décrire ça d'ailleurs dans quelques articles. Enfin, le côté privé, donc là, en effet, on a vraiment de nouveaux acteurs qui viennent concurrencer directement, frontalement, ces acteurs traditionnels. Alors, frontalement, et puis qui plaisent aussi, il faut le dire, aux élus. Hein. Très souvent, ils plaisent parce que, premièrement, ils ont un discours formaté et marketing qui est très puissant. D'autre part, ils ont une dimension d'intervention sur le territoire qui est très efficace, mais quand je dis efficace, ça ne veut pas dire qu'elle est de qualité, ou en tout cas elle est d'une qualité spécifique. Et par ailleurs, ils ont cette capacité à mettre à communiquer, hein, et donc à mettre, pour un élu très souvent, et bon ce qui se voit, et donc ces compagnies, je pense, Quai 36 que j'évoquais tout à l'heure, il y en a d'autres, Palm, des compagnies comme ça, des organismes privés SAS comme ça, qui sont, ils sont dans la course à la subvention, et pour eux, la course à la subvention, il y a quand même un enjeu assez particulier, c'est du financement de fonctionnement pour leurs entreprises et très souvent, et les artistes ne sont pas forcément, ne s'y retrouvent pas forcément en termes de salaire ou d'indemnité. Voilà, donc on a comme ça, en effet, des nouveaux acteurs qui fait que le gâteau, je vais pas non plus exagérer, le gâteau n'a pas augmenté, hein, mais à savoir s'il a baissé beaucoup, il faudrait y voir de près, mais ces nouveaux acteurs sont quand même des concurrents sérieux pour les acteurs traditionnels. Et on pourra revenir peut-être sur quand même des logiques qui sont très très différentes entre les associations ancrées sur le territoire et ces entreprises qu'on accuse très souvent de one-shot, hein, de venir et de repartir aussitôt sans avoir créé justement les dynamiques locales qu'on attend de certaines actions culturelles.
Mais pour revenir, hein, sur cette histoire de financement, peut-être qu'effectivement la notion de raréfaction n'est pas la plus appropriée pour décrire ce qui s'est passé. Néanmoins, ce que vous pointez dans vos travaux, c'est un double mouvement. D'abord, le changement, hein, la configuration des politiques culturelles. Vous dites qu'il y a de plus en plus d'appels à projets et oui. Avec des horizons temporels de plus en plus courts. Donc ça, là aussi, ça modifie, hein, à la fois les pratiques d'un certain nombre d'acteurs producteurs de culture, mais aussi la nature même, hein, si j'ai bien compris.
Ah oui, ça c'est très important, oui, j'ai oublié de le pointer, c'est le passage là en 20 ans d'une logique de la subvention, c'est-à-dire des financements pluriannuels pour... du fonctionnement, mais aussi pour que les institutions choisissent elles-mêmes ce qu'elles vont produire, à la logique de l'appel à projet, c'est-à-dire que dans l'appel à projet, on va solliciter des artistes, des compagnies, des associations pour qu'ils répondent à une demande publique. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et en effet, donc le secteur associatif a dû se convertir à cette logique de l'appel à projet qui est à la fois un langage, hein, c'est un langage qu'il faut voir, c'est ce qu'on apprend, là, ce que je dirige le master culture à l'UPJV, donc c'est ce qu'on apprend dans les universités, c'est-à-dire un langage très jargonneux, très technique de l'appel à la subvention, où on va avoir dans cet appel à projet toutes les formes d'instrumentalisation de la culture mise en œuvre par le politique. Hein. Donc, j'emploie ce terme à dessein. Donc, le politique, via les institutions, fait de l'appel à projet pour répondre à trois types de besoins sociaux, la cohésion, l'inclusion, la cohésion sociale, l'inclusion, le développement territorial, le développement économique, et puis la communication, l'identité des villes. Voilà, donc on a dans ces appels à projet une logique d'instrumentalisation de la culture à des fins politiques et sociales diverses.
Et est-ce qu'on peut dire, comme vous l'aviez fait justement il y a un an à peu près dans cette tribune dans Le Monde, que justement pour rebondir sur ça, que les subventions étatiques vont toujours en majorité vers des équipements classiques qui ne parviennent pas justement à pouvoir dépasser cette logique intellectualiste? Et comment on pourrait faire justement pour remédier à cela?
Alors, sur les remèdes, c'est difficile, et puis c'est pas mon rôle, mais oui, en effet, alors déjà ceux qui ont accès à la subvention et au financement, c'est ceux qui savent parler, hein, c'est ceux qui savent, qui sont des professionnels. Donc là, il y a eu l'exclusion, j'étais justement à Amiens il n'y a pas très longtemps, dans une conférence où un artiste se plaignait de ne pas avoir accès à la subvention, mais on comprenait tout de suite, c'est pas pour le stigmatiser, hein, mais qu'il n'avait pas le langage, hein, il n'avait pas les codes, pour le dire sociologiquement, il n'avait pas les codes pour, déjà les codes à l'oral, mais alors encore moins le langage, la sémantique. Voilà. Donc là, on a déjà une exclusion de fait, de forme, pour répondre à votre question, la deuxième partie, de forme culturelle qui serait un peu différente, parce que les gens qui les portent sont différents, sont issus de milieux sociaux populaires. Donc là, on a ce que j'appelle un entre-soi, c'est l'entre-soi des personnes qui sont qualifiées Master 2 et qui savent parler le langage du monde des professionnels de la culture. Après, sur la première partie, en effet, c'est cette logique. Alors, il faut répondre aux formes d'instrumentalisation demandées par le politique, mais il faut aussi répondre à cette notion très abstraite, mais qui est pas loin de ce que j'ai décrit tout à l'heure, qu'on appelle la qualité artistique. Si la culture, ce n'est pas pour qu'on s'amuse, donc ce côté sérieux de la culture institutionnelle, il se cristallise dans cette notion de qualité artistique. Et c'est quoi la qualité artistique ? C'est proposer des formes qui sont finalement qu'il est possible d'insérer dans l'histoire de l'art. C'est des formes, sont des formes qui répondent aux enjeux esthétiques de l'histoire de l'art. Alors, même si c'est aujourd'hui très moderne et très contemporain, les formes expérimentales sont dans des logiques artistiques qui sont quand même soit déjà reconnues comme légitimes et artistiquement valables, soit qui sont jugées comme potentiellement capables d'intégrer l'histoire de l'art avec toutes ces logiques là qui sont pour le coup strictement esthétiques, quoi. Donc toutes les formes qui ne correspondent pas à ça ont beaucoup de mal à accéder à la subvention. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple le hip-hop, pour accéder à la subvention, il a dû se mouvoir, se transformer en... Alors soit déjà il a dû monter sur scène, hein, c'est pendant 10 ans au Hall de la Villette, il y avait les rencontres des cultures urbaines, et c'était le passage de cette culture de rue populaire en cercle à la danse, à la chorégraphie, à la danse expérimentale. Les hip-hoppers sont devenus des chorégraphes très connus aujourd'hui. Donc pour pouvoir, vous voyez, il y a une forme de ce qu'on appelle l'artistisation. Les formes, ce que Nathalie Hennig appelle l'artistisation, l'artification, les formes populaires pour accéder à la subvention, quoi. Donc pour répondre à la deuxième partie de la question, je ne sais pas trop. Il faudrait déjà pointer qu'il y a des logiques artistiques ou des paradigmes culturels qui ne sont pas dans la logique institutionnelle, relèvent d'autres choses, qui relèvent du plaisir physique, qui relèvent du simple loisir, qui relèvent de l'hédonisme. Hein, c'est ce que j'appelle le dionysiaque, hein, le paradigme dionysiaque qui s'oppose au paradigme institutionnel que j'appelle l'apollinien.
Également, dans vos travaux, vous pointez le rôle, on va dire, perverse, hein, des élus. Hein, j'ose le mot, hein, je l'assume. À travers notamment le fait de vouloir, dans le cadre de ce que vous avez appelé l'événementialisation de la culture, d'être toujours à la recherche du visible, de ce qui claque, de ce qui fait parler. Et ça, vous dites que ça change considérablement également le rapport à la culture, le rapport de la production culturelle, hein.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais être moins sévère que vous avec les élus. Alors, en effet, ils ont ce côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, et bon, pour eux, ce qui se voit, donc il y a quand même peut-être les élections en perspective, donc il faut montrer qu'ils font quelque chose, et un festival, pour ça, c'est quand même pas mal. Mais néanmoins, en faisant cela, ils se rapprochent quand même des populations et de ce que, des attentes, hein, que j'évoquais tout à l'heure, le côté animation, le côté festif, hein, le mot que j'ai pas encore employé, mais c'est quand même, pour beaucoup de gens, la culture, c'est la fête, hein, c'est pas un truc hyper sérieux, quoi. Donc, il y a une dimension politique dans cette événementialisation qui est de l'ordre de la reconnaissance du populaire, finalement. C'est pour ça que j'ai même assisté des fois dans une communauté de communes que je ne citerai pas, un conflit entre une représentante de la DRAC et un élu local. Et l'élu local voulait inviter un artiste qu'il jugeait très très intéressant parce qu'il aimait bien ce qu'il faisait. Selon ses termes, c'était rigolo. Et la représentante de la DRAC jugeait qu'il n'avait pas assez exposé dans des galeries légitimes, quoi, qui sont vraiment artistiques. Donc là, ça s'est fini. La représentante de la DRAC a dit si vous financez cet artiste, dans le cadre du festival, je me retire globalement du financement du festival. Donc la DRAC ne voulait pas financer s'il y avait ce côté un petit peu moins artistiquement affirmé, quoi. Voilà, donc le côté un petit peu m'as-tu vu, il renvoie aussi à un enjeu politique de reconnaissance d'autres formes. Alors moi, ce que je dis, c'est quand même pas que ces formes s'opposent, hein, c'est que la forme institutionnelle, un peu heuristique, un peu intellectualiste, c'est un paradigme de la culture, et il en existe d'autres. Voilà, donc ils pourraient très bien cohabiter. Sauf que dans la, déjà, il y a une sorte de mépris institutionnel vis-à-vis des formes populaires qui persiste. Hein, bien, alors il y a des porosités quand même, on pourra en reparler. Hein, tout n'est pas binaire tel que je le présente là dans la réalité, mais ce sont des tendances fortes quand même qui persistent.
Alors ce soir, on parle beaucoup ici à Radio Campus du FSER et c'est un exemple concret de financement ciblé. Et selon vous, comment ces dispositifs, ils peuvent s'inscrire dans la stratégie globale de l'État en matière de culture et d'information ? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de nouveaux modèles de financement culturel avec des mix à la fois public-privé, participatif, du mécénat. Et est-ce que ces modèles pourraient-ils remplacer des dispositifs comme le FSER ou seulement, selon vous, les compléter ?
Alors là, franchement, c'est un petit peu... Alors pour moi, déjà, l'incitation à la mixité des financements, ça date de Sarkozy. Hein. Depuis 2007, là, on avait eu un grand tournant sur l'incitation au mécénat, au sponsoring, etc. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Peut-être que là, les coupures l'obligent, en fait. Je pense déjà que, pas comme vous le dites, mais que selon des disciplines, c'est plus ou moins faisable. Hein. Je pense, alors je vais peut-être ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais dire, mais je pense que la radio pourrait a plus de facilité d'aller vers un financement mixte, public-privé, que des formes artistiques expérimentales, comme le théâtre expérimental, par exemple, vous voyez, qui se trouvera peut-être plus difficilement, mais c'est pas un constat absolu, hein, mais des financements privés. Voilà. Et donc, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut affirmer aussi le rôle de l'État, et ça a quand même été une logique des politiques publiques culturelles, de financer des formes qui ne sont pas économiquement viables. C'est quand même un des enjeux aussi dans ces coupures de subventions, peut-être d'identifier les secteurs qui sont nécessairement à perte, et c'est pas grave. Et donc le service public, dans ce sens-là, peut avoir ce rôle de protection des formes artistiques qui sont économiquement difficilement tenables, ce qui n'empêche pas de reconnaître par ailleurs des formes populaires, quoi. Et puis que d'autres se développent sur des financements mixtes sans rester simplement cantonnés dans un camp ou dans un autre, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui. Vous nous apportez des éléments de réponse en sachant qu'évidemment c'est... C'est jamais évident d'y voir clair dans un champ aussi complexe avec autant d'acteurs et de jeux d'acteurs.
Oui, bon. Je pense au festival. Par exemple, les festivals ont quand même, pour le dire autrement, une capacité d'autofinancement qui est beaucoup plus forte que le cinéma expérimental ou le théâtre expérimental, tout ce qui est d'ailleurs de l'ordre de l'expérimental, ou même la photographie. Vous voyez, ce sont des secteurs plus qui génèrent moins de ressources financières, quoi.
On arrive vers la fin de cette interview. Je sais que vous appartenez à une tradition de recherche qui est assez prudente lorsqu'il s'agit de normatifs. Néanmoins, je me risque à cette question, à laquelle vous n'êtes bien évidemment pas obligé de répondre. Je sais qu'il faudrait beaucoup de temps pour le faire, mais quelles sont les tendances qui s'esquissent, que vous observez et qui pourraient nous dire... ce qui va à l'avenir pouvoir se passer sur ce vaste champ qu'est la culture. Voilà, peut-être en 2-3 mots, nous dire ce que vous voyez apparaître comme tendance, comme signaux faibles, comme on dit en prospective. Quoi.
Alors, je ne sais pas si vous faites allusion à la situation politique, c'est peut-être ça.
Entre autres, oui, tout à fait.
Oui, voilà, donc mais là, c'est très clair. Donc, la situation politique des tendances politiques aujourd'hui sont dans des logiques culturelles, dans des paradigmes assez différents, quoi. Alors peut-être pas sur la question élitiste que j'évoquais, hein, peut-être pas, mais en tout cas sur le rôle du patrimoine, par exemple. On n'a pas parlé du tout de patrimoine ce soir, mais la question des identités. Donc si aujourd'hui l'instrumentalisation de la culture se fait beaucoup sur la question de l'inclusion sociale, peut-être que dans l'évolution qui peut se produire à l'avenir, la question de l'instrumentalisation à des fins identitaires sera une question clé, quoi. Mais moi, ça ne me choque pas du point de vue de l'histoire des politiques culturelles, puisque tous les régimes instrumentalisent la culture à des fins identitaires. Malraux le premier, hein, la politique de Malraux est une politique nationaliste, hein, républicaine et nationaliste. C'est-à-dire que la culture était censée, dans son projet, faire repère pour la nation française. La démocratisation culturelle, c'est rendre accessible au plus grand nombre les œuvres majeures de l'humanité, mais Mais en premier lieu, les œuvres françaises. Vous voyez, donc la culture est rarement éloignée des questions identitaires et nationalistes. Donc ça, c'est peut-être une tendance forte. Après, il y a le côté qu'on évoquait tout au début, c'est la question de la place des industries culturelles. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est... C'est ce qui est reproché hein, dans l'homogénéisation. Vous voyez, pour le coup, j'aime une tradition sociologique qui analyse comment les populations ou les publics sont capables de... Je l'analyse d'ailleurs dans beaucoup de textes, de se réapproprier des formes, même industrielles, des formes de ce qu'on appelle la culture de masse, mais de la réinterpréter à sa sauce localement, de la reconstruire, de lui redonner d'autres sens. Si je peux citer Michel de Certeau, par exemple, chez lui, toute consommation est une production. Hein. Donc, allez, vous voyez, entre une sorte de misérabilisme qui voudrait que bon, voilà, tout s'homogénéise, le poids de la domination des industries culturelles, ben moi je constate sur le terrain, par exemple dans le cosplay, des gens qui se réapproprient des signes qui ont été produits par l'industrie, qui sont mondiaux, mais qui donnent des sens locaux. Je pense même à la musique métal que j'ai analysée en plein milieu de l'Afrique, au Botswana, comment les gens localement s'en saisissent pour en faire totalement autre chose et réinventer des formes artistiques, des sens artistiques et d'autres formes de liens sociaux.
Très bien.
Voilà. Donc, deux tendances comme ça que je pointe
très
pour l'avenir, peut-être.
Merci beaucoup, monsieur Fabrice Raffin. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Picardie-Genève. Vous êtes sociologue, socio-anthropologue. Vous avez un site internet où on peut suivre votre actualité, il me semble. C'est bien ça ?
Oui, ou sur LinkedIn aussi. Oui.
Ou sur LinkedIn, effectivement, sur le réseau professionnel LinkedIn.
Voilà.
Merci d'avoir donné de votre temps. Je sais que ce n'est pas une heure à laquelle on a l'habitude d'interroger des chercheuses et des chercheurs, mais c'est tout à votre honneur. Merci encore à vous.
Et merci à vous pour la qualité de vos questions. Je tiens à le dire.
Merci. Je remercie Alice qui est à mes côtés, qui est une de nos bénévoles. Et voilà, encore une fois, on vous adresse toute notre gratitude. La soirée se poursuit sur le 87.7 FM en DAB+ également. Vous pouvez également nous écouter sur Radio Campus Amiens. On fait une petite pause musicale avec l'excellente Bonnie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.
Et alors, attention, ouvrez bien vos oreilles. L'artiste suivant est en live.
Eh oui, tu dévoiles des choses avant l'heure, Manu, mais effectivement, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent, rebonsoir pour ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure. C'est une nouvelle virgule, on va dire un point virgule musical alors. On continue d'arpenter les rues musicales de la ville d'Amiens avec les artistes qui la font. On a fait plein de petits détours tout à l'heure et on n'est pas encore passé par le rap. Et si on passait pas par le rap, ça serait malheureux quand même. Quoi de mieux que de l'avoir en live. Ce soir, je suis avec NHL. Salutations et bonsoir La Vision.
Bien le bonsoir à toi, Bonnie.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va très bien par ce temps plus ou moins agréable.
Alors, est-ce que tu t'entends bien ? Est-ce que ta voix
J'ai l'impression qu'il y a comme un écho.
Il y a un écho, il y a un petit écho. Ah. Mais c'est vrai que tout à l'heure, JM me disait fais attention à couper les fées quand ils vont parler.
Ah ouais, c'est vrai.
Et je lui dis les rappeurs aiment parler avec les fées, mais non, pas forcément. C'était peut-être un petit stéréotype.
Ouais.
Ok, ça fait longtemps que tu fais de la musique sur Amiens, on est d'accord.
Ouais, maintenant ça commence à faire quelques années qu'on est ici. Hein.
Mm-hmm.
Donc je te dirais que les choses ne bougent pas, mais pourtant elles avancent.
Tout à fait, elles avancent.
Paradoxalement.
Grand philosophe que tu es, n'hésitez pas à suivre NHL sur les réseaux, si tu peux nous rappeler ton Instagram.
Mon Instagram, disons que c'est Nihilogé, c'est l'artistique, et NHL Vision, c'est pour la vision.
N'hésitez pas. En tout cas, c'est très inspirant de te suivre. Ce soir, tu vas nous jouer un morceau. Et tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais un mot pour qualifier ce morceau. Et tu as choisi le mot inoubliable.
Ouais, clairement.
On parlait un peu pendant les balances et tu as dit que c'était paradoxal d'être inoubliable. Pourquoi ?
Parce que t'imagines que t'es inoubliable. Pourtant, on t'oublie.
Suivez cet homme, suivez-le, agissez, on est pas mal dans le studio ce soir, mais les locaux de Radio Campus, tu les connais.
Ouais, parce que là, dernièrement, on va dire que j'ai arpenté les couloirs avec différents crews pour différents projets, mais le même but, c'est-à-dire être ensemble et pouvoir partager un moment ensemble et vous le partager aussi à vous.
Le partage. Est-ce que c'est un peu, dans ces cas-là, ce que Radio Campus a pu te permettre de faire, partager ta musique ? C'est ma seule question avant qu'on démarre.
Ouais, elle a partagé ma musique et elle a même plus, elle a créé des concepts qui seront dévoilés en temps et en heure.
En temps et en heure, donc on est toujours et encore dans les locaux de Radio Campus. Le morceau que tu vas nous jouer s'appelle Forget You.
Exact.
Si vous êtes prêts, moi je le suis. C'est NHL, La Vision ce soir, toujours sur Radio Campus et en live.
souvent les plus longues. Elle est heureuse mais elle me tire la langue. Toutes les combines les connaît à la longue. Quand vaisselle est sale, je la fous à la plonge. Plan A, plan B, son navire elle tanque. Un mal de mer, son marin qu'elle chavire. Elle n'aime pas la manière dont je conduis. Normal baby, là je navigue. J'ai mon brevet comme un navire. Je serai étonné de venir sans mon navire. C'est beau la vie. Quand j'ai pas besoin de lui dire de venir. Elle aime me voir venir, mais elle préfère lorsque m'a pas vu venir. Des serpents qui ont un goût de surprise, soupçon d'amour, mon épice favorite. Je sais pas ce que je lui dis, elle sourit. La garde dans les yeux et elle rit. La représentation la fait sourire, elle me fait oublier que c'est mon ennemi.
Un jour tu l'oublies, un jour tu m'oublies. Un jour tu l'oublies, un jour tu m'oublieras. Un jour tu m'oublieras. Un jour tu m'oublieras.
Jamais,
jamais,
jamais.
Un jour tu m'oublieras.
Jamais,
jamais.
Un jour tu m'oublieras.
Quoi, moi? Comment faire pour m'oublier moi? Si je pars avec fracas, je claque la porte, tu peux garder les clés pour toi. Si j'ai rien pour moi, tu veux quoi de moi? Pense-moi au un scratch, je fais les deux de moi. Belle vie finit souvent en émoi. Seigneur, aidez ou pardonnez-moi. Toi et moi, dans le même temps qui coule, on est sur le navire. Mais on se part quand il coule, ça même pas voler, ça même pas nager. C'est des rapaces comme des recoupes. Ma vision est brillante comme une secoupe. J'écris l'ennemi sous la succoupe. Mais l'obs grandit, elle prend de secousses. Son cul fait des vagues, j'ai rajouté des remords. Est-ce que c'est important de savoir ce qui m'importe? Est-ce que c'est important de savoir ce que j'apporte? Tristesse, solitude, joie. Tristesse, solitude, joie. Et toutes ces peines, ma foi, produisent des larmes de joie.
Un jour tu l'oublies, un jour tu m'oublies. Un jour tu l'oublies, un jour tu m'oublieras. Un jour tu m'oublieras. Un jour tu m'oublieras.
Jamais,
jamais. Un jour tu m'oublieras.